C'est l'heure de la chronique des apatrides anonymes. Simon qui est avec vous cette semaine, en ce lundi 16 janvier, à l'émission En profondeur sur les ondes de CKUT. En général, aux apatrides, on discute d'enjeux liés à la paranoïa sécuritaire, à l'immigration, aux frontières. On fera pas exception cette semaine. Alors, je vais vous parler entre autres du nouveau système de gestion des demandes de réunification familiale, c'est au niveau fédéral. Je vais vous parler du gouvernement provincial de Philippe Couillard tout d'abord, des enjeux qui sont liés à l'immigration LGBT. Vous verrez les liens, il y en a. Au niveau provincial, ça va pas bien depuis quelques mois. Disons qu'au niveau de l'immigration, je sais pas trop ce qui se passe, ça va très mal. Quelques exemples, Québec qui suspendait récemment les nouvelles demandes de parrainage de réfugiés. Donc là, je fais juste l'évoquer très vaguement. C'est sûr qu'on va vous en parler dans les prochaines chroniques là, de manière plus exhaustive. Autre exemple, aide sociale, une mesure qui pénalise les bénéficiaires nés à l'étranger. La question des enfants de parents sans statut qui ne peuvent pas avoir accès à l'instruction obligatoire de base. Je vais vous parler tout d'abord, toujours gouvernement provincial qui entend devenir un peu le porte-voix des droits LGBT au sein de la francophonie internationale. Donc, LGBT, c'est l'acronyme qui a été choisi par le gouvernement. Et on entend profiter de la tribune assez importante du Québec au sein de l'Organisation internationale de la francophonie pour défendre les droits des personnes LGBT. Donc, en soi, c'est bien. Je pense que tout le monde peut applaudir à ça. Mais vous verrez l'old Bobless dans une minute, puis quel est le lien aussi avec l'immigration. On sait que, dans beaucoup de pays de la planète et aussi dans beaucoup de pays francophones, la situation des personnes homosexuelles ou, par exemple, transgenres est catastrophique. Peine de mort, criminalisation, harcèlement, violence, ça va vraiment pas bien. Donc, que le Québec décide de profiter de cette tribune, en soi, c'est intéressant. On verra ce que ça donne. Il y a déjà eu des résolutions qui ont tenté d'être adoptées au sein de la francophonie, mais il y a eu du blocage au niveau de pays comme le Cameroun, entre autres, qui peut répondre des choses du genre l'homosexualité est un trait culturel occidental qu'on cherche à nous imposer. Si vous voulez absolument parler d'homosexualité, nous, on pourrait parler d'excision et de polygamie. Bref, avant qu'il y ait des résolutions claires qui soient adoptées, il y aura du chemin à faire. Donc, on va applaudir le Québec s'il entend porter ces dossiers-là. Par contre, c'est ça, je vous disais tantôt que l'Old Bobless, moi, c'est un texte d'une militante trans que j'ai lu dans le journal Métro, dans la section opinion du 4 janvier, qui m'a mis la puce à l'oreille. Donc, le texte est introuvable en ligne. Donc, je vais vous en partager des pans assez complets. Donc, dans le texte de Mme Dalia Turki, qui est une militante trans de Montréal, lit des choses, je résume, l'intégration des droits LGBT dans la politique étrangère du Québec porte à croire que la situation des personnes LGBT est parfaite. Or, c'est loin d'être le cas, surtout au Québec, malgré certaines avancées récentes. Durant les deux dernières années, deux nouvelles lois provinciales, les lois 35 et 103, ont permis aux personnes trans d'ajuster leurs documents légaux, les autorisant, personnes majeures comme mineures, à changer leur nom ou leur mention de genre à l'état civil. Ces deux lois, par contre, et c'est là le problème principal, excluent les personnes trans non citoyennes. Le Québec est la seule province dans laquelle le changement de nom et de mention de genre est possible ou ce n'est pas permis pour les personnes qui ne sont pas citoyennes. Il faut rappeler, en fait, Mme Turki nous le rappelle, que ça peut prendre facilement jusqu'à 7 ans pour une personne migrante avant d'obtenir la citoyenneté. Alors, 7 ans de difficultés, de discrimination, de violence, de harcèlement, mais surtout 7 ans de déni de leur identité à ces pauvres personnes. Ça cause des difficultés pour la recherche d'un emploi ou d'un logement. Ça cause des difficultés au niveau des interactions avec les institutions gouvernementales, par exemple lors de l'utilisation du système de santé. Ça cause évidemment de la détresse psychologique, de l'isolement. Ça peut évidemment faire obstacle à l'intégration et à une pleine participation à la vie citoyenne. Peut-être qu'on nous rappelle aussi que la Charte québécoise des droits de la personne interdit depuis cet été la discrimination basée sur l'identité ou l'expression de genre et que cette charte s'applique autant aux personnes citoyennes qu'aux personnes résidentes du Québec. Donc, ça s'adresse autant aux citoyens qu'aux non-citoyens. Donc, une belle contradiction ici avec les règlements récemment adoptés par l'Assemblée nationale. Donc, avant de d'aller promouvoir les droits des personnes LGBT à l'international et de revendiquer un quelconque leadership, ce serait important que le Québec corrige cette injustice envers les personnes trans migrantes dont qu'on exclut du droit de faire les changements de nom et de genre à l'état civil. J'ai écrit à Mme Tourqui, cette militante trans qui nous apprenait cet état de fait-là. Je voulais avoir une petite mise à jour. Donc, sa réponse, en gros, est la suivante. C'est depuis avril 2016 que les personnes transmigrantes ont commencé à s'organiser pour s'exprimer sur cette question et à la rendre publique. Il y a plusieurs actions qui ont été organisées, une marche, des panels de discussion. Il y aura un reportage sur Vice, la rédaction de dizaines d'articles. D'une dizaine d'articles, pardon. Il y a aussi eu une vidéo qui va bientôt sortir. Il y aura un rassemblement devant le bureau de l'État civil. Je n'ai pas la date, malheureusement. On vous tiendra au courant dans une prochaine chronique, si c'est toujours à venir, évidemment. Et sinon, pour terminer la réponse de Mme Tourqui sur cette question-là, elle espère toujours une rencontre avec la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, mais on ne sait toujours pas si la ministre va accepter de rencontrer les militantes trans. Pour poursuivre dans des enjeux LGBTQ, régulièrement, il y a des textes, des récits de réfugiés homosexuels ou transgenres ou queer qui ressortent dans les petits et grands médias, en général assez bouleversants. C'est extrêmement difficile d'avoir cette double pénalité si on veut d'être à la fois un réfugié qui fuit un régime oppressif ou qui fuit la guerre ou qui fuit la discrimination et le fait en soi d'être homosexuel ou transgenre ou autre dans un contexte de réfugié, que ce soit sur les routes migratoires ou dans les camps, rend ça doublement difficile. Il y a un cas particulier qui est ressorti début janvier, qui a été quand même relayé dans beaucoup de médias sur un gay syrien qui est maintenant rendu au Canada, mais qui a dû passer par toutes sortes d'épreuves. Qui a passé par les camps de réfugiés en Turquie, je crois au Liban et en Jordanie aussi, où il était discriminé en raison de son orientation sexuelle dans les camps de réfugiés. Il a passé par l'Europe de l'Est et par la Russie, où il a encore une fois été discriminé en raison de l'orientation sexuelle, non seulement de la part de ses je sais pas comment dire ça, ses collègues de migration, les autres réfugiés et par les autorités policières et politiques. En Russie, par exemple, où il y a des lois qui sont discriminatoires à l'endroit des personnes homosexuelles. Cette personne-là, dont on ne connaît pas le nom, a fait une demande de statut de réfugié à l'Australie, qui lui a répondu par courrier pour lui dire que sa demande était simplement refusée. C'était une réponse très laconique, sans explication. Qui disait en gros, votre demande est refusée et c'est définitif. Donc, cette personne-là habite maintenant au Canada. Pourquoi je parle de ça? Parce que même au Canada et dans la plupart des pays, mais même au Canada, le fait d'être gay, d'être homosexuel ou d'être transgenre ne constitue pas un critère suffisant en soi pour obtenir le statut de réfugié. C'est-à-dire, le principe du statut de réfugié est que le fardeau de la preuve est du côté du demandeur. Il doit démontrer, hors de tout doute, ou du moins faire la démonstration auprès d'un arbitre, d'un commissaire de la commission du statut de réfugié, qu'il est en danger partout dans le territoire de son pays d'origine. Et le fait d'être gay, même si on provient d'un pays qui criminalise ou qui discrimine officiellement l'homosexualité, ce n'est pas considéré comme suffisant. Donc, je tenais à le souligner, mais évidemment, les difficultés ne seront pas terminées, même pour quelqu'un qui est gay et qui est arrivé au Canada en tant que réfugié. Donc, il peut continuer de subir la discrimination de la part des membres de sa communauté. Il a, comme tous les réfugiés, ben, tout un cheminement bureaucratique par lequel il doit passer, qui est très long, qui est très ardu. Il faut lutter pour venir à bout de la bureaucratie canadienne. Bureaucratie qui prend parfois des allures de kermesse. Donc, je vais terminer avec ce sujet-là. Alors que, ben, petit aparté, alors que Québec annonce une suspension des nouvelles demandes de parrainage réfugié, Ottawa, de son côté, met en place un nouveau système de loterie pour gérer les cas de réunification familiale. Donc oui, une loterie, vous avez bien entendu, c'est comme ça que ça, non pas que ça va marcher, mais que ça marche, c'est déjà en vigueur. Donc ce sera un tirage au sort pour réunifier les familles immigrantes. Donc ça a l'air un peu absurde, je veux dire, c'est un sujet extrêmement sérieux. On parle de réunification familiale de personnes immigrantes, donc des gens qui sont ici depuis, dépendamment, parfois quelques années, parfois quelques décennies, qui souhaitent par exemple faire venir des membres proches ou leurs époux, épouses ou des parents. qui sont vieillissants, donc qui ont choisi le Canada justement dans cet objectif-là. Et finalement, on leur dit, ben là, c'est plus le processus normal qui est long, mais qui était sur le principe quand même du premier arrivé, premier servi. Là, maintenant, vous allez passer par une loterie. Donc, on va vous donner, si vous voulez faire une demande de parrainage, vous n'envoyez pas votre demande. Vous prenez un numéro, vous allez être tiré au sort, et si votre numéro est tiré, vous avez l'occasion de soumettre de votre demande, qui peut quand même être refusée ou être jugée irrecevable. Donc, tous ceux qui soumettent leur dossier doivent maintenant se croiser les doigts. Le gouvernement, de son côté, il affirme que ce nouveau système est plus juste, plus transparent et qu'il améliorera l'accès au processus de demande. Je ne sais pas comment il en arrive à cette explication-là. Bref, le ministère choisira au hasard 10 000 parrains qui seront ensuite invités à remplir le dossier de leur famille à l'étranger dans les 90 jours suivants. Comme je le mentionnais tantôt, il y a certaines personnes qui ont immigré expressément au Canada dans le but de faire venir, par exemple, leurs parents âgés. Bien, maintenant, elles ne peuvent plus tenir leurs promesses puisqu'on n'a plus aucune idée des délais. Et qui sait si le numéro à la loterie ne sera jamais tiré. Bref, les demandeurs de parrainage n'ont même plus accès au formulaire de demande qui était disponible en ligne. Ils sont maintenant dirigés vers cette loterie automatiquement. Donc, on peut même plus savoir rapidement si une demande de parrainage est admissible. Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait savoir relativement facilement et rapidement avant le nouveau système qui vient d'être mis en place. Donc, on ne perdait pas nécessairement des années pour se faire dire non, votre demande n'est pas recevable, il manque un document, t'sais. Ou il y a un document qui n'est pas conforme. Donc, beaucoup pensent, autant des organismes de pression que des personnes qui sont un peu victimes de ce nouveau système-là, qu'on devrait au moins pouvoir remplir un formulaire en ligne pour se faire dire si la demande est recevable ou non. Ça ferait perdre beaucoup moins de temps à beaucoup de personnes. Bon, le gouvernement fédéral soutient qu'il va, avec ce nouveau système-là, qu'il va réduire de moitié le temps de traitement des demandes. Donc, personne comprend vraiment la mathématique du gouvernement pour en arriver à cette conclusion-là, puisqu'en principe, le nombre de demandes va demeurer le même avec les mêmes délais de traitement pour chaque demande. C'est juste l'accès au système qui a été un peu compliqué. Donc, à moins qu'on estime que cette loterie devienne un dissuasif et que le nombre de demandes de parrainage diminue, je vois pas comment on peut espérer que le délai de traitement va être plus rapide. Donc, effectivement, comme mentionné tantôt, certains immigrants affirment qu'ils auraient renoncé à leur projet. Donc, qu'est-ce qu'on peut prêter des intentions aussi machiavéliques au ministère de l'Immigration qu'il a instauré ce système de loterie justement pour dissuader des gens et ainsi accélérer les processus puisqu'il y aura moins de demandes. On ne sait pas, on va pas prêter des intentions aussi méchantes au ministère de l'Immigration. Donc, écoutez, ceux qui n'auront pas été choisis par la loterie cette année pourront toujours tenter leur chance en 2018. On va espérer que ce soit la bonne. C'est ce qui met un terme à la chronique des apatrides anonymes de ce lundi 16 janvier. C'était Simon qui était avec vous. La chronique est aux 2 semaines, donc dans 2 semaines, Marie-Ève sera là pour vous parler de différents enjeux liés à l'immigration, la sécurité, la paranoïa sécuritaire, les frontières, etc. Donc, on est toujours à CKUT, à l'émission En profondeur.